Les carnets du soir, avec l'abbé Denis Veilleux.
Les carnets du soir vous proposent de me suivre comme pèlerin dans différents lieux à Rome, la ville éternelle. Je vous livre différentes pensées et réflexions. Suivez-moi dans cette réalité. Donc nous avons vu cet équilibre de l'enfance devant cette basilique de la Minerve qui était fermée au moment où nous sommes arrivés. Nous avons perçu qu'il y avait eu un concert probablement la veille parce qu'on a sorti un immense piano à queue. Donc il y a eu un concert. Vous allez comprendre aussi pourquoi on peut donner des concerts dans cette ville. Il y a deux saints, bon trois je dirais, bon, Saint-Dominique, on sait que son tombeau est à Bologne. Alors, Saint-Dominique est le fondateur des Dominicains, ça lui dit. C'est un Espagnol qui va venir évangéliser au sud de la France, mais qui va se rendre en Italie. On sait qu'il va rencontrer François d'Assise. Ils vont se parler, ils vont même réfléchir ensemble, ils vont prier pour comprendre comment ils pourraient peut-être s'associer, puisqu'ils ont à cœur l'Évangile et le souci de l'Évangile. Alors, Saint-Dominique est un prédicateur important. François est aussi un prédicateur. Il ne voudra pas être prêtre, il sera diacre. Et ils vont décider, ensemble, dans la communion, qu'il est préférable que chacun suive son chemin. On les appelle les ordres mendiants. Donc, tous les deux ont cette coloration d'être des ordres mendiants. Et les prédicateurs sont les dominicains, et François, eh bien, ce sont des frères petits, simples, humbles, dédiés à la prière, à cette fraternité entre les gens. Donc la spiritualité franciscaine et dominicaine se distingue. Ici, c'est Saint-Dominique à la Minerve. Donc on a le saint fondateur. Alors, on le trouve, comme je vous dis, contemporain de François d'Assise, c'est-à-dire au XIIe siècle. Alors, nous avons dans cette église une sainte qui est importante, une sainte italienne, Catherine, qui vient de Sienne. Elle est native de Sienne, sainte Catherine de Sienne, qui est morte ici à Rome le 29 avril. Donc, Catherine de Sienne, on a vu l'endroit, c'est devenu un théâtre aujourd'hui, c'est un théâtre. Alors l'endroit où est morte Sainte Catherine de Sienne, on en voit une plaque où on décrit l'événement de son décès. Donc Sainte Catherine de Sienne, on y voit son tombeau en dessous de l'autel majeur dans la basilique de la Minerve. Alors c'est un tombeau qui est illuminé et qui rappelle cette sainte. Catherine de Sienne est reconnue pour être une personne de communion, parce que c'est l'époque où il y a trois papes. Donc, le vrai pape sera du côté d'Avignon. Et Catherine de Sienne est comme une ambassadrice de l'unité. Alors, elle travaillera au service de l'unité dans l'Église, et elle réussira à ramener le pape d'Avignon à Rome et de faire respecter ce choix. Ce ne sera pas facile. Sa vie mystique, elle est importante. On parle souvent des dialogues, les dialogues de Catherine de Sienne. Alors il faut sortir de l'imagerie populaire pour mieux comprendre que lorsqu'elle assiste à la messe, qu'elle communie, Catherine de Sienne est en présence d'un prêtre qui est son confesseur et son directeur spirituel. Et lors des actions de grâce, elle parle, elle dialogue avec le Christ, avec Dieu, elle dit des choses. Et le confesseur prend des notes. C'est ce qu'on appellera les dialogues dans la vie de Sainte Catherine de Sienne. C'est une mystique aussi qui aura la couronne d'épines. Elle est invisible. On ne la voit pas. Si, par exemple, on a vu les stigmates de François d'Assise dans ses mains, les pieds et celles du cœur, eh bien, Catherine de Sienne, elle porte la couronne d'épines invisible. Elle est souvent représentée dans les toiles ou les fresques avec cet élément. Donc elle porte cette couronne d'épines qui rappelle le Christ, roi des Juifs, à qui on a mis la couronne d'épines au moment de sa passion. Donc c'est une vie d'amour, une vie de prière. Elle est tertiaire dominicaine, donc elle fait partie de l'ordre des laïcs, d'une certaine façon. Et elle travaille à l'unité de l'Église. Son corps est ici à Rome, mais ce qu'on appelle le chef de son corps, c'est-à-dire sa tête, est à Sienne. C'est comme cela que les villes pouvaient demander des privilèges d'une certaine manière. Alors la tête de Sainte Catherine est à Sienne, c'est sa ville natale, et le reste de son corps, qui sont des reliques, se trouve à la Minerve. Elle est patronne de l'Europe, avec beaucoup d'autres personnes.
Voici maintenant les missives. Il s'agit de 18 lettres d'un descendant de Bernardo di Perugia, Bernard de Honfleur, ou descendant de Béic di La Fleur, Leonardo di La Fleur. Nous sommes 400 ans plus tard. C'est Bernard de Honfleur en France qui prend l'initiative. Il désire venir en Nouvelle-France et se raconte. Prise de son Yannick Caron, musique et bruitage François Couture.
Très cher Leonardo, je viens de recevoir votre missive, arrivée par le bateau du mois de juillet. Mais que vous arrive-t-il? J'ai si mal à vous lire devant la terrible nouvelle que vous m'annoncez. La perte de votre fiancée pour l'autre monde. Je suis si troublé que les mots me manquent et ma plume s'est arrêtée sur le manuscrit. Vous le voyez bien avec cette tache. Ce que vous me décrivez me semble irréel. Attaqué en Italie par des sangliers, on a peine à y croire au XVIIe siècle. Je comprends que vous étiez à la chasse avec son père, votre beau-père posthume. Comment ces blessures n'ont-elles pu être soulagées? Elle a perdu trop de sang et les bêtes l'ont molestée au cou. Je vous le dis, je ne dors plus depuis que je vous ai lu. Quelle peine pour vous qui deviez l'épouser. Même notre foi en Dieu vacille. Je pense à notre Seigneur qui a crié sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous remarquez qu'il crie le nom de Dieu deux fois. J'aurais tendance à écrire jusqu'à l'infini. Pourquoi? Pardonnez-moi. Je devrais vous consoler et je vous accable de ma tristesse immense. Vous me dites que les obsèques ont été d'une grande dignité et que toute la ville s'était rassemblée pour cet événement. Je comprends tous ces pleurs. C'est comme de lire Roméo et Juliette sur une autre tonalité. Pardonnez-moi, j'ai des failles. Allez-vous poursuivre votre travail auprès de votre beau-père qui ne l'est plus? Comment voyez-vous pour le moment ce qui adviendra? Vous est-il même possible de vous concentrer sur quelques travaux que ce soit? Que vous écrire après un drame aussi énorme? Cela vous paraîtra si léger et sans véritable intérêt. Bon, je m'y astreins. Je suis devenu le parrain de la petite Clotilde, née de la jeune veuve le jour même de notre arrivée l'an dernier. Ce fut une telle nouvelle dans la bourgade que les gens pleurèrent de joie. Vous vous rappelez ce jeune homme frappé par une poutre? Maintenant, la jeune veuve a quitté les hospitalières pour s'occuper de son enfant. Monseigneur l'évêque m'a demandé, à titre de parrain, si je pouvais avec mes maigres ressources l'aider. Ce qui m'a touché, et je sais qu'il le fait pour tant de gens pauvres ici, c'est qu'il m'a proposé de donner la même somme que ma générosité consentirait. Si je donne 3 écus, il en donne 3. Je ferai de mon mieux. Éléonore est gentille avec moi. Savez-vous que lors de la mort de son jeune époux, toute la jeunesse masculine était tournée vers elle? En apprenant qu'elle était enceinte, plus de la moitié cessèrent de la regarder sous l'angle que vous devinez. Et maintenant, bien peu voudraient la prendre pour épouse. Ce que le cœur humain est étrange et original, en ce sens qu'il désire l'original. Qui veut d'une veuve, si belle soit-elle? Un veuf. Et les veufs ici ne sont plus très jeunes, vous savez. Bon, je confie cela à Notre-Dame, et surtout votre peine qui, j'en conjure la divine providence, se transformera un jour en une plus grande joie pour vous. J'oubliais. Éléonore demeure dans une petite maison adossée au monastère des sœurs Ursulines. De cette manière, elle est protégée et aidée par ses femmes dévouées. Ah oui, lors de ma dernière missive, j'allais rencontrer le lendemain la fondatrice de ce couvent. Eh bien, au moment où j'allais m'y rendre, le marchand, toujours énigmatique, m'a envoyé à la prison. Non pas pour ce que vous pensez, mais pour servir de scribe lors des convocations ou des dépositions ou même des procès. Je suis chargé de rédiger les procès-verbaux. J'entends des choses troublantes. Mais que voulez-vous? Ce qui me désole cependant, du fait que je n'ai pu rencontrer la fondatrice des Ursulines, c'est que je perçois que la seconde génération deviendra illettrée, car on n'apprend plus à lire, à écrire, ni à compter. Je pressens des temps difficiles en ce domaine. Je prierai Notre-Dame afin qu'elle vous console. Bernard de Québec, affligé, vôtre.
C'était Les Carnets du Soir avec Denis Veilleux qui vous parle. Réalisation technique, Yannick Caron.